Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute!
Après avoir considéré la vraie masculinité à travers le spectre du bronzage testiculaire, alors si ça ne vous dit rien du tout, on vous invite à découvrir l'épisode. On s'interroge aujourd'hui sur les transformations des imaginaires quant à l'idéal féminin. De la girl boss à la tradwife, on se demande vers quoi pointent ces aspirations féminines. Générique.
En vérité, je vous le dis,
devons revenir au centre.
Real life for your eyes.
It is like a finger pointing away to the moon.
Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
Christelle,
Jean-Christophe
et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Mojito, le podcast à la recherche du sens au-delà des apparences. Et pour chercher le sens, j'ai à côté de moi mon super copain JC.
C'est moi.
Mon super copain Christelle.
Salut Léa, salut les amis.
Et moi c'est Léa et on est hyper contents d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Dans une saison qu'on tourne actuellement à Strasbourg, la ville des bretzels et de la choucroute. Donc vous pouvez peut-être avoir les odeurs et l'imaginaire strasbourgeois qui vous vient en écoutant cet épisode. En tout cas, on espère, quelle que soit la nourriture qui vous accompagne en l'écoutant, qu'il vous plaira.
On a mangé de la choucroute, je pense, tous les jours depuis qu'on est.
Mais c'est pour ça que je dis qu'on infuse les épisodes avec du chou fermenté. Je pense d'une certaine manière, ça doit transparaître dans les ondes.
En odorama la saison prochaine.
Je suis abonnée à la newsletter d'un magazine en ligne qui s'appelle l'ADN Nouvelle Tendance. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu la newsletter qui présentait les nouveaux articles, l'un d'entre eux qui s'appelait « Bimbo, Sad Girl, Girl Boss, Top des personas féminins qui parasitent nos imaginaires ». Et vu qu'avec les garçons, on avait fait un épisode sur « C'est quoi la vraie masculinité ?» À nouveau, si vous ne l'avez pas écouté, on vous y encourage. En tout cas, ça nous avait permis de voir plusieurs archétypes de l'homme et de réfléchir à, en fait, c'est quoi l'humanité et c'est quoi être homme, être femme. Je me suis dit « Mais c'est parfait, c'est l'article qu'il nous manquait pour poursuivre la discussion ». Mais du coup, avant de demander à mes super copains qu'est-ce qu'ils en pensent et comment est-ce qu'on peut trouver le sens derrière ces apparences, je vous propose un petit topo sur la tradwife et la girlboss. Sur TikTok, le hashtag tradwife atteint les 100 millions de vues. Les tradwives prônent le retour de la femme au foyer traditionnel et une assignation genrée des rôles. Comme le souligne la journaliste Camille Vernin, au programme, grand nettoyage de printemps, atelier de préparation de biscuits, lecture, couture, rangement, emplettes, jardinage et préparation du dîner du soir où le mari n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table et se laisser servir une bière. À l'inverse, une girl boss, c'est une femme qui a des rêves et qui est prête à travailler dur pour les réaliser. Être une girl boss, c'est être la patronne de ta propre vie. C'est prendre des responsabilités concernant ton futur, être à l'aise avec la prise de risque et comprendre que l'échec est un pur produit de ton invention. Si tu apprends de tout ce que tu fais, t'es gagnante. Cela dixit Sofia Amoroso, entrepreneur et auteur du livre Girl Boss, dont la vie a aussi inspiré un film du même nom. Bref, deux extrêmes sur le spectre de la féminité. Alors les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a évoqué, la lecture de cet article ou l'écoute de ces petites définitions? Je me tourne vers notre faux misogyne préféré, Jean-Christophe.
Faux misogyne? Pourquoi Vous n'êtes juste pas habitué en Europe à être en contact avec des vrais hommes des bois. Là, vous pensez qu'on déteste les femmes, mais pas vrai, au contraire. Là, on est en équipe, là, c'est juste qu'il faut que le gars aille couper le bois pendant que la femme tient le foyer, allumé, tu sais, pour pas que les enfants gèlent l'hiver.
Je t'embête, hein?
Ouais, ben non.
Non, mais c'est bien connu que les Canadiens vivent dans les bois, autour de feux de bois.
Exactement, c'est ça. C'est ça, avec mon podcast.
Encore aujourd'hui.
Puis, en toboggan. Voilà. Donc, c'est vraiment cool comme article, quand même, de voir que, bon, c'est pas juste les hommes qui sont aux prises avec des différents idéaux masculins, parfois contradictoires, qui sont poussés sur les réseaux sociaux. Même le titre de l'article, là, c'est ces idéaux qui parasitent notre imaginaire.
Oui, exactement.
À quelque part, il faut reconnaître qu'on travaille, on vit avec des modèles. Avec des modèles différents, puis c'est à travers ces modèles-là qu'on s'oriente. Puis quoi.
Le premier, par exemple.
Le premier modèle, c'est la trad wife. Je pense que c'est, mais c'est quand même un phénomène qui est en émergence. Je vois de plus en plus.
Tout à fait.
Peut-être qu'il y a une réaction au courant. On a déjà fait un épisode sur le féminisme, puis on se rend compte qu'il y a plutôt des féminismes. C'est la seconde vague, si je me souviens bien, qui était. Qui cherchait à émanciper économiquement les femmes. Donc, il y avait beaucoup d'emphase sur l'accession des femmes à certains postes. C'était vraiment sur le front de l'économie, du marché du travail que les luttes féministes se faisaient. Puis, problème, c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose. Ou en fait, c'est une bonne chose.
Mais... Il marche sur des œufs, là.
Ben oui, il marche sur des œufs avec les. Je pense qu'il faut le pondérer. Je pense qu'on fonctionne tout le temps aussi avec un système de valeurs. Certainement, pour une femme d'être vulnérable économiquement, ça doit être très inconfortable de dépendre d'un mari. Si le travail de la femme est seulement du travail qui n'est pas échangeable, tandis que le mari a du travail échangeable, il peut avoir une certaine forme de subordination. De l'autre côté, si tu es dans un couple, puis un couple qui fonctionne bien ou ce qu'il y a un échange de ressources, mais d'aller faire des PowerPoint 5 jours par semaine, c'est pas nécessairement une forme d'émancipation. Je pense qu'il y a comme un contre-discours avec la tradwife qui est en train de dire ben, c'est aussi correct de rester à la maison, c'est aussi bien d'assumer un rôle un peu plus traditionnel où on s'occupe du foyer puis des enfants. Où le rôle, dans le fond, il y a une spécialisation économique qui se fait, mais à l'intérieur du foyer.
Je vais me tourner bientôt vers Christelle pour lui demander ce qu'il en pense. J'aime bien voir se confronter JC et Christelle dans leur manière de voir le monde. Mais il y a peut-être effectivement une sorte de réaction à un discours qui a peut-être été prédominant pendant les 70 dernières années, ou environ. Mais j'ai l'impression que l'imaginaire de la tradwife tel qu'il est hyper visible sur les réseaux sociaux, c'est aussi un retour à la pin-up. C'est une certaine manière aussi de se présenter et en fait d'assumer une sorte de féminité qui finalement va très bien avec le discours de la deuxième et troisième vague du féminisme. Christelle, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, c'est vrai qu'il y a tout un imaginaire aussi visuel, voire même sexuel en fait, hein, de comment la femme se présente avec tous ses avantages physiques, de séduction, mais en même temps elle est au foyer et elle gère le foyer. C'est une tension qu'on voit plus trop aujourd'hui. C'est-à-dire que si une femme s'affirme physiquement, ben c'est pour être indépendante plutôt, pour gérer sa vie, parce que c'est une meneuse, parce que c'est une femme qui a, voilà, elle a son boulot, elle gère sa vie. Et c'est assez frappant, parce que moi j'ai vu aussi l'émergence de cette tendance sur TikTok, sur Insta, ou des commentaires de cette tendance par des journalistes ou d'autres commentateurs. Et ce qui est assez phénoménal, c'est la taille, l'ampleur que ça a. Tu as mentionné qu'il y avait l'article disait 120 millions, millions de clics sur le hashtag tradwife. C'est assez, assez significatif quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pourraient être surpris et beaucoup de femmes qui aujourd'hui pourraient être surprises qu'un modèle dit traditionnel du rôle de la femme soit aussi populaire. Et puis aussi, c'est les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux qui sont beaucoup consommés par des jeunes femmes. C'est beaucoup de femmes qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, et même les militantes pour ce modèle-là sont très jeunes.
Ouais. Oui, oui. Alors, j'ai l'impression que la raison pour laquelle ça fait le buzz, c'est autant parce que ça peut en inspirer certaines qu'en rebuter complètement d'autres.
Ouais.
Et parfois, c'est l'attrait du clic pour les choses qui nous énervent profondément. Ouais. Je crois que c'est aussi ça, le succès du hashtag.
En même temps, je crois qu'il fallait s'attendre quand même à ce genre de retour du balancier parce que j'ai l'impression, moi, quand j'étais plus jeune, c'était presque mal vu d'être femme au foyer à un certain point. C'était comme, ah, ben, t'as pas réussi ta vie, t'as pas réussi ta carrière, tu te cantonnes dans un rôle passéiste. Puis c'était comme si la femme au foyer était inférieure, dans le fond, à celle qui a une carrière. Mais en même temps, ce qu'on remarque, par exemple, par rapport à la... au rôle traditionnel, mais c'est pas pour rien qu'il y a des rôles traditionnels aussi. Souvent, c'est le rôle traditionnel est presque une adaptation naturelle. Je donne un exemple. Dans les pays où, par exemple, on essaie de... Non, mais pour vrai,
je me prépare.
Naturel, ça veut pas nécessairement dire normatif. Là. C'est pas toutes les femmes devraient être des femmes au foyer, toutes les femmes devraient être mères. Ma femme est une... Et pas une trad wife, loin de là. Quoi qu'elle tient très bien son foyer.
Fais gaffe à ce que tu dis.
Je fais très attention. Là, elle va écouter ça dans la voiture. Là, ça se trouve que dans quelques semaines.
Dis-lui que tu l'aimes.
Je t'aime beaucoup, Sandra. Je t'aime beaucoup. Mais non, c'est comme l'exemple. On dit tout le temps, les filles, ils aiment les Barbies, mais c'est par socialisation. Puis les petits gars aiment les voitures, puis c'est par socialisation. Puis si on les forçait pas à aimer les voitures ou les G.I. Joe ou les Barbies, ils ne seraient pas cantonnés dans ces archétypes masculins et féminins. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand les enfants sont libres de choisir certains types de jeux, ils vont naturellement aller vers... Des jeux qui sont associés à leur genre, sans nécessairement qu'on les force. Moi, ma petite fille, c'est très drôle. Mes gars, quand ils jouaient aux Barbie avec les Barbie de leur sœur, c'était des batailles de Barbie, c'était comme des personnages qui faisaient des acrobaties, des choses comme ça.
Est-ce qu'ils enlevaient les têtes
ouais.
Non. Ils étaient quand même respectueux, mais ils enlevaient
les
vêtements.
Moi, je faisais ça quand j'étais petit avec les Barbie.
Puis ma petite fille, j'ai le souvenir de ma petite fille avec un genre de voiture à roulettes qu'elle emmaillotait dans un... elle jouait avec une voiture, elle l'emmaillotait puis elle versait la voiture. Là. Donc, à quelque part, je crois que le mouvement Tradwife ouvre une porte à plusieurs femmes qui diraient, oui pour une carrière, mais moi, ce que je veux vraiment faire, c'est être à la maison, puis... prendre soin de mes enfants, puis pas avoir à coordonner ça avec un horaire de travail puis des responsabilités, grand bien leur en face.
Ouais. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment besoin du buzz immense du hashtag tradwife pour réhabiliter le fait que non seulement c'est OK d'être femme au foyer, mais qu'en plus, c'est un job à temps plein et que c'est hyper valorisé. Parce que même si je suis d'accord, on entend ce discours parfois, mais quand même, une femme, ça doit sortir, travailler, séparer des enfants, nanana. On entend aussi beaucoup, moi j'ai l'impression, depuis que je suis enfant, punaise, quelle championne, quoi. Elle reste à la maison pour s'occuper de la maison. Ah. Et ben franchement, c'est aussi une girl boss, mais boss de son foyer. Mais c'est quoi le sens derrière tradwife? Qu'est-ce que ça vient dire sur la femme? Parce que, sagesse et morito, l'essence derrière les apparences. J'y sais.
Par rapport au sens, je fonctionne avec cette idée-là de sortir les gros mots, là, mais comme l'arché et le télos, c'est des concepts philosophiques, mais c'est-à-dire le commencement et la fin, l'origine et la fin, la finalité.
Qui sont des mots grecs.
C'est ça. Puis l'idée, c'est que...
On aime bien parler en grec dans Sagesse Morito. Ça donne une aura comme ça d'intellectualisme.
Ouais,
non, je t'embête.
Non, mais c'est ça aide à comprendre. Parce que la question du sens, le sens, c'est tout le temps lié à la direction en deux points. Puis c'est de comment est-ce qu'on va de l'origine à la finalité. Puis on a parlé dans des épisodes passés, cette idée-là même de... d'ordre naturel ou pourquoi est-ce que c'est ça, d'ordre naturel sans aller trop dans les détails. Donc la question de l'origine de la femme dans une conception de tradwife, c'est que la femme est faite pour devenir mère, est faite pour s'occuper d'un foyer, de bénéficier de ce que fait son homme pour elle et ses enfants, puis de l'autre côté d'utiliser ça pour justement prendre soin des enfants, puis prendre soin de son mari. Ce que ça veut dire, c'est que si tu nais avec cette mentalité-là, si tu, comment dire, si tu grandis avec cette mentalité-là, ben, ça oriente ton avenir. J'ai rencontré des jeunes femmes qui avaient vraiment cette aspiration-là d'être femme au foyer. Ben, si tu veux être femme au foyer, ta vie n'a pas vraiment de sens si tu ne trouves pas un mari qui est prêt à
subvenir à tes besoins,
de fait. À tes besoins, puis qui veut ce genre
de rôle.
De rôle-là, d'économie, là, hein, parce que c'est ça le sens de l'économie. Et donc, il y a comme un danger là-dessus. C'est comme de dire, bah, peut-être pour ta vie, c'est un objectif louable de trouver un mari puis de te marier, mais de dire que le but de la femme ou que la femme devient pleinement femme seulement lorsqu'elle est
mariée
ou en tout cas en couple, associée, puis dans ce rôle-là, c'est sûr que c'est limitatif. C'est normal qu'on le critique aussi. Le sens de la femme ne dépend pas de celui de l'homme.
Et c'est là qu'on se rend compte de, quand j'ai dit au départ qu'il était un faux misogyne, il fallait insister sur le faux qui était le vrai mot des deux. Merci JC. Alors du coup, à l'inverse total, on a la girl boss, où là, au contraire, c'est l'indépendance complète d'un homme et puis accéder à l'indépendance, notamment financièrement, économiquement. Christelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ben ouais, la girl boss, c'est le modèle de la femme qui se réalise par ses ambitions, ses objectifs, son travail, qui lance ses projets, qui sait s'organiser, qui sait s'en sortir et qui, par-dessus tout, montre au monde entier qu'il est possible de s'en sortir justement sans être mère, justement sans avoir besoin de dépendre d'un homme.
Et sans être un homme.
Et voilà, et sans être un homme. Donc, en étant soi-même une femme, donc girl boss. Boss, c'est la patronne, la gérante, celle qui gère. Et puis, tu l'as mentionné dans ton pot tout à l'heure, c'est l'entrepreneuse Sophia Amoruso qui a lancé ça. Elle est partie, en fait, elle a créé un site de collecte de fripes, hein, donc des vêtements de seconde main, et puis a développé un empire, en fait, une immense entreprise, les fringues Nasty Girl. Nasty girl, vilaine fille. Et voilà, des entrepreneuses comme ça représentent l'idéal de la girl boss. Et c'est souvent, en fait, des entrepreneuses. Et c'est souvent un modèle qui vient des États-Unis. Alors,
il faut quand même le
souligner.
C'est donc le American girl boss.
Voilà.
C'est la femme qui saisit le American dream.
Voilà, exactement. Qui l'incarne, en fait.
Self-made woman.
Ouais, c'est self-made ça, woman, ouais. Et donc, alors que quand en France ou en Europe, souvent quand on parle d'indépendance, en fait, beaucoup d'autres endroits dans le monde d'ailleurs, quand on parle de l'indépendance de la femme ou des droits de la femme, on va plutôt penser à des luttes sociales, à des lois qui doivent changer, etc. Donc, pour renverser le patriarcat. Ben là, l'idéal de la girl boss, c'est vraiment self-made woman. Donc, c'est quelqu'un qui s'auto-réalise et qui se donne les moyens de s'en sortir. On a créé un film qu'on peut voir sur Netflix qui parle de la trajectoire de cette femme. Et dans la culture populaire, c'est quand même assez vanté. Michelle Obama a beaucoup fait l'éloge de la girl boss.
Bah d'ailleurs, il me semble que son bouquin, il a été au top des ventes à Michelle Obama pendant plusieurs années consécutives. Je ne l'ai pas lu moi-même, mais je le voyais tout le temps en numéro un des librairies devant lesquelles je passais.
Donc voilà, c'est ça l'idéal. Et il faut le souligner, c'est un idéal qui est très américain. Et même dans l'imaginaire, on parlait de la tradwife, en fait, l'imaginaire visuel de la tradwife, c'est les années 50 aux États-Unis, hein, c'est Mad Men, c'est ma sorcière bien-aimée, c'est un peu cet imaginaire de la femme qui reste au foyer, qui est magnifique au foyer.
Donc en fait, déjà avec ces deux archétypes, on voit finalement l'influence de la culture américaine dans notre imaginaire. Ouais. C'est des hashtags qui souvent commencent aux États-Unis.
Ouais. C'est l'hégémonie culturelle américaine qui s'impose même en France. Mais bon, voilà, nous, on est juste à côté des États-Unis.
T'en vois tout plein des girl boss autour de toi ou des femmes qui aspirent à ça?
Ouais, beaucoup, beaucoup. Je pense de plus en plus dans des proportions similaires aux hommes qui qui cherchent à, justement à saisir le rêve américain, à se partir en affaires, à devenir indépendant. C'est sûr, chez nous, il y a quand même un fort esprit entrepreneurial, je pense, en Amérique. Ça fait partie de l'ADN du continent. Mm. On dirait que c'est le continent fait quelque chose aux gens qui y arrivent. Hein. C'est, surtout quand tu arrives d'Europe où ça me frappe, là, où tout est bâti, tout est là, il y a plein de gens partout. Tu as plein de ressources, comment dire, communes. Puis là, tu arrives en Amérique, on dirait que tout est à faire. C'est plus le Far West, mais comparé à l'Europe, ça l'est encore. Et donc, cette idée-là, comme quoi le rêve américain appartient aussi à la femme, c'est là. Puis en fait, l'idéal américain aussi d'indépendance qui est caché là-dedans. Mm. Autant que la trad wife, dans le fond, va trouver son sens en faisant partie d'un groupe, d'un couple, où il y a un rapport de dépendance, mais peut-être que je dirais de codépendance aussi, parce que le mari ne pourrait pas faire le genre de carrière qu'il fait s'il n'y avait pas le soutien de son épouse.
Parce qu'il rentrerait chez lui tous les soirs, il n'aurait rien à manger.
Ben oui, c'est ça, parce qu'il se concentre sur la carrière. De l'autre côté, la girl boss, ben, elle incarne cet idéal aussi américain d'indépendance, de dire ben, « j'ai pas besoin de personne d'autre ».
Donc j'ai l'impression qu'avec ces deux archétypes, quand on réfléchit, c'est quoi finalement le sens donné à ces archétypes qui envahissent notre imaginaire collectif? On a affaire à des femmes qui sont dans tous les cas soumises, alors non pas nécessairement à un mari, mais à un modèle économique et à un modèle aussi politique d'une manière dont doit fonctionner la société.
Oui.
On est tous soumis.
C'est vrai. Et c'est absolument pas la conclusion de cet épisode parce que il y a d'autres archétypes. Mais je trouvais ça intéressant. Peut-être que c'est parce que vous êtes politologue que finalement ça revient dans la conversation de voir l'angle économique politique. Mais moi, j'avais pas vraiment vu ça avant et je suis pas certaine que c'est à ça qu'on pense quand on voit les hashtags sur les réseaux sociaux.
Non, bien sûr, mais c'est, tu fais très bien de le dire et de dire on est soumis. La vraie question, c'est à quoi est-ce qu'on est soumis? Parce qu'on est toujours soumis à quelque chose. Et là, voilà, l'utilité d'un archétype où en sociologie, on parle de modèle type, tu vois, d'avoir une figure qui est presque exagérée, comme la girl boss, qui est vraiment genre... un cliché, en fait, un cliché.
Ouais.
Ça permet de voir, en fait, ce qui... marque un modèle, en fait. Et dans ce modèle-là, on voit assez facilement, en fait, plus facilement que dans notre société, parce que je pense qu'en fait, la girl boss est juste une version exagérée d'un modèle qui existe vraiment, et je pense, est majoritaire dans le discours de notre société, et où l'arché, donc l'origine, là d'où vient la femme, c'est qu'elle est faite pour s'inscrire dans un modèle productiviste. Elle est faite pour pouvoir s'en sortir... participer, créer de la valeur, participer au marché, exactement comme l'homme. Mais alors, la femme et l'homme sont ensemble vus comme des outils dans un système économique productiviste. Et donc, la façon dont une femme se réalise, c'est en participant pleinement et en étant efficace dans ce système productiviste.
Comme ils se retrouvent dans le marché plutôt que dans le foyer, l'homme et la femme sont aussi souvent décrits comme en compétition l'un avec l'autre. Donc, on va dire, la femme va briser des plafonds de verre, comme s'il y avait aussi comme un genre de conspiration masculiniste pour empêcher la femme d'accéder à certains rôles ou certains postes. Puis, on va tout le temps comparer, les revenus l'un et l'autre ou comment les femmes vont percer dans certains marchés de l'emploi. Et donc, ça impose à la question du genre ou de la famille des catégories du marché qui lui sont normalement étrangères. Je veux dire, dans un foyer, il y a des conflits, il y a des chicanes de ménage, qui va faire quoi, mais je veux dire, on n'est pas en compétition comme on l'est... où on est sur le marché du travail.
Où on ne devrait pas l'être dans un monde idéal.
Idéalement.
Mais comme tu le disais si bien, Christelle, on est tous soumis à quelque chose, la question c'est à quoi. Mmh. On aime rarement ce terme de soumission, surtout quand on vient de voir que dans les archétypes qui sont hyper présents dans notre imaginaire collectif, l'indépendance est un mot qui revient très très souvent. Mmh. Et pourtant, cette soumission à des lois naturelles, à un univers qui fonctionne autour de nous et ouais. dont on, sur lequel on n'a pas prise, ouais. C'est une réalité. Et c'est une réalité spirituelle, ça arrive souvent dans les mmh. épisodes de Sagesse et Morito, ouais, ouais. De revenir sur cette idée-là. On va forcément être soumis à quelque chose, ouais. on va forcément être soumis à une sorte de d'entité qui nous gouverne. Certains l'appelleront Dieu ou divinité, d'autres peut-être lui donneront un autre nom, mais même si elle n'est pas nommée, elle est là quand même. Ouais. Et j'ai l'impression dans cette métaphore, le capitalisme est un petit peu cette entité, ou même le rêve américain.
Une entité spirituelle.
C'est un peu cette entité ouais. spirituelle ouais, qui finalement gouverne après... Tout ce qu'on fait. Et du coup, la question, c'est est-ce que je veux me laisser gouverner par ça?
C'est comme les Romains, les classiques. Hein, ils avaient une déesse du foyer, un dieu de la famille ou un dieu du travail ou du marché ou de l'argent. Donc, à quelque part, cette idée-là d'adoration ou d'idolâtrie, c'est-à-dire où le sens vers lequel on se prosterne et on s'oriente, ben je pense qu'on l'a évacué dans nos sociétés modernes qui sont plus matérialistes, dans le sens qu'ils ne considèrent pas qu'il y a une réalité spirituelle. Je crois que c'est un modèle qui est, je dirais qu'il est vrai, mais qui est aussi utile, ce modèle spirituel-là, pour comprendre justement cette notion-là qu'on sert tous quelqu'un. On sert tous quelqu'un, l'idée même qu'on voit, l'idée de la girl boss, mais c'est qu'elle est girl boss à l'intérieur d'un système économique, à l'intérieur d'impératifs. Cette idée-là d'être son propre dieu ou d'être complètement indépendant puis libre, ben c'est lubie à quelque part.
Ben, ça me fait penser à une amie que j'avais quand j'étais... encore aux études en Belgique, on parle d'école secondaire, donc c'est l'équivalent du collège et du lycée. Au lycée, une amie que je fréquentais, puis alors il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc c'était par email qu'on conversait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des chaînes de mails avec des questionnaires qu'on pouvait remplir, enfin, toutes sortes de choses.
Ah, mais c'est vrai, j'avais tellement oublié ça.
C'était comme ça qu'on communiquait. Et je me souviens d'avoir reçu de cette amie à l'époque... donc un questionnaire, et c'était un petit peu portrait chinois. Donc si j'étais une chanson, qui est-ce que je serais? Et pour moi, en fait, la chanson qui la caractérisait, c'était la chanson de Destiny's Child, Independent Women, tu vois.
Est-ce que tu peux nous la chanter un petit peu? Chacun son tour.
Ok. All the women are independent, throw your hands up at me. All the women are independent, throw your hands up at me.
Voilà.
Et donc le refrain, c'est all the women making money.
Les femmes qui génèrent de l'argent.
Ouais. All the mamas who profit dollars.
Toutes les mamans qui profitent des dollars.
Oui, ouais, c'est ça, hein, en fait.
Ouais, ouais.
Et puis, il y a cette partie qui dit, voilà, « The shoes on my feet, I bought them. » Donc, les chaussures à mes pieds, c'est moi qui les ai achetées. Les vêtements que je porte, c'est moi qui les ai achetées. « The rock, I'm rocking. » Donc, ma musique, ma démarche,
en
mon
fait,
allure.
En fait, « The rock », je pense, c'est comme le gros diamant.
Et puis aussi, le diamant, oui. « Que I depend on me if I want it. » Donc,
Je ne dépends que de
moi-même si je le veux. Donc, tout dépend de ma volonté. Et cette amie, elle caractérisait ça. Elle a répondu à mon mail en disant « Oh, ça me touche beaucoup. »
Ah oui, donc c'était vraiment un compliment.
Ouais, hein, donc, elle a beaucoup apprécié parce qu'elle avait en plus cette attitude vraiment gérée, elle voulait faire des études scientifiques plus tard, etc. Je l'ai recroisée, je sais pas, 5 ou 6 ans après, on s'était perdu de vue pendant nos études. Je l'ai croisée dans un marché.
Elle avait 4 enfants, puis...
Non, elle était avec son mari, parce qu'elle m'a présenté son mari. Et je suis tellement content de la voir. Vous savez, en Belgique, tout le monde se fait la bise, les gars, les filles, on se fait la bise. Et donc, je suis content de la voir. Ah, comment... Je ne vais pas mentionner son nom. Hein. Donc, comment ça va? Et elle m'a complètement... elle a mis la main, quoi, à la distance. Elle a tendu la main. Elle était contente de me voir aussi, mais elle ne voulait pas que je lui fasse la bise. Elle dit, je te présente mon mari. Comment ça va? Ah, ça va bien. Je suis mariée depuis quelques années. Voilà mon mari.
Il fait ceci, il fait cela.
Complètement l'inverse. Ouais, elle m'a pas vraiment parlé d'elle-même. Mmh. Elle parlait de son mari et de la vie de son mari. La vie qu'elle avait avec son mari. Ça m'a vraiment frappé parce que pour moi c'était un petit peu la fille qui incarnait le potentiel de la girl boss.
Et qui devenait la trad wife.
Ouais, exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui touche. Ben, il y a beaucoup de filles qui se convertissent à l'islam, par exemple, qui ont cette réflexion-là que l'imaginaire de la girl boss, en fait, c'est une soumission à une vision du monde où on dépend du marché, du capital, que c'est trop de pression sur les femmes. Et peut-être qu'une autre vision du monde, ou le fait de se représenter par son mari ou par l'homme de sa vie, c'est libérateur.
Et alors, c'est très intéressant que tu mentionnes l'islam, parce que depuis tout à l'heure, on dit en filigrane le terme spirituel, il y a le terme de soumission à une entité ou une réalité qui nous gouverne. C'est un principe métaphysique et spirituel, même si l'entité finit par être le capitalisme ou le rêve américain. On parle de chercher le sens profond que nous avons, alors en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et la Bible a des choses différentes à dire que l'islam, notamment par rapport au rôle des hommes et de la femme. La Bible est souvent, j'ai l'impression, mal comprise dans ce qu'elle va dire sur le but d'une femme. Il faut savoir que les tradwives, en tout cas pour les interviews que j'ai pu lire de l'une d'entre elles, dans les plus célèbres, on va dire, sur les réseaux sociaux, elles revendiquent une vision biblique de la femme qui doivent être soumises à leur mari. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il lit ça, il va dire « Ah bah ok, donc en fait le modèle biblique, c'est bien ce que j'avais compris, c'est finalement très patriarcal, c'est l'homme qui décide, la femme qui doit juste se mettre en dessous, et puis elle est là pour faire la cuisine, etc. » Mais en fait, dans la Bible, il y a des exemples de tradwives. Bon, de fait, c'était quand même, quand ça a été écrit, c'était un système assez traditionnel, de fait. Il y a des exemples de girl boss, de femmes qui vont être des guerrières, qui vont mener une armée, qui vont mener tout un peuple dans la louange, être une prêtresse. Il y a des femmes entrepreneurs qui travaillent. Il y a un petit peu tous ces modèles-là. Et je pense que si on cherche à conclure cet épisode, non pas parce qu'on aura fait le tour de tous les archétypes, on aura mis toutes les références dont on a parlé dans l'épisode dans les petites notes, donc n'hésitez pas si vous voulez continuer à chercher un petit peu, à en savoir plus sur ces différents modèles. Mais en fait, le modèle biblique, il est de dire que le but de la femme, c'est un petit peu résumé pour être un petit peu choc comme phrase, mais en tout cas le sens, le telos en grec, l'objectif, c'est ni d'être une tradwife, ni d'être une girl boss, ni d'être n'importe quel archétype, c'est pas d'être un archétype en fait, mais c'est d'être soumise à Dieu comme le telos de l'homme et d'être soumise à Dieu. En quelque sorte, le modèle biblique qu'on voit de l'humanité, c'est de reconnaître qu'il y a un ordre des choses, qu'il y a un ordre dans la nature, dans le cosmos, et que cet ordre, il est tenu ensemble par Dieu, et que le but de l'être humain, quel qu'il soit, c'est de connaître ce Dieu. Alors, c'est qu'une conversation qui a été ouverte et qui n'est pas fermée. On vous invite à la poursuivre d'ailleurs avec nous et à nous donner vos commentaires sur qu'est-ce que vous pensez de tous ces archétypes et des autres. En tout cas, on vous souhaite de très belles explorations sur le sens de la vie, le but de la vie et puis les explorations de ces archétypes. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Sagesse et Mojito.
Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Mojito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Mojito.